Une étrangère, une question, le corps, c'est la règle de trois d'Amélie Nothomb. Le sentiment d'être une étrangère l'a longtemps habité. À quelques kilomètres de Kobe, au Japon, sa petite enfance se déroule dans un cadre idyllique. Seulement, son père belge est diplomate. Et lorsqu'Amélie Nothomb a 5 ans, la famille déménage, c'est une douleur insoutenable. Chine, États-Unis, Bangladesh, Birmanie, Laos, Belgique, après chaque départ, elle doit tout recommencer ailleurs. Sa seule racine devient le langage, même si elle reste profondément attachée au Japon. Et en particulier à Nishio-san, la nounou à qui elle rend visite en 2011 dans le cadre du documentaire Amélie Nothomb, une vie entre deux eaux.
Nishio-san wa watashi no haha deshita.
Arigatou gozaimashita. Deshi on mitone go.
Iro iro osewa ni narimashite, makoto ni arigatou gozaimasu.
Toto mama ni yoroshiku ne.
Soshio.
À la célèbre question de Rilke dans Lettre à un jeune poète, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire ? Amélie Nothomb répond à l'âge de 17 ans. Dès lors, elle écrit au minimum 4 heures par jour. On se souvient du succès immédiat du premier roman publié, Hygiène de l'assassin, en 92. Un livre non dénué d'une certaine violence, tout comme le second, Le sabotage amoureux, en 93.
On sent pas cette violence quand on vous a à côté d'eux.
Justement, comme je la déverse à longueur de journée dans mes bouquins, ça me permet de venir sur des plateaux d'émissions et d'être à peu près supportable.
Cette nécessité vitale d'écrire s'explique sans doute par l'agression sexuelle subie lors d'une baignade dans l'océan Indien à l'âge de 12 ans. Là, dit-elle, est né l'ennemi intérieur. Aujourd'hui, elle a rédigé 96 manuscrits et publié 28 livres. Le corps tient une place importante dans ses récits. C'était le cas en 1992.
C'est un sédentaire adipeux, dites-vous. Il a 4 mentons, des yeux de cochon, un nez comme une patate, une nuque plissée de bourrelet et des joues qui pendent.
C'est encore et toujours le cas aujourd'hui dans Soif, le récit d'un Christ très incarné qui décrit son plaisir de s'allonger pour dormir, de sentir une brise printanière, de manger, boire, respirer. Un Christ à qui Amélie Nothomb fait aussi dire « Le paradoxe, c'est qu'il faut peser pour connaître la légèreté ».
Les images d'Amélie Nothomb au Japon sont assez bouleversantes.
Oui.
Avec votre deuxième maman.
Oui, oui. Chaque fois que je les vois, je sens les larmes qui montent.
Soif, meilleure vente à l'heure actuelle, sur la liste, la première liste du prix Goncourt. Soif, c'est presque l'anagramme de quoi ?
Je ne l'ai pas fait exprès. Ça me fait très, très, très plaisir d'être sur la liste du Goncourt. Ça a l'air bête à dire, mais croyez-moi, c'est...
C'est essentiel ?
C'est essentiel, je ne dirais pas, mais ça fait un grand plaisir.
C'est un soliloque, c'est un monologue. Jésus parle, son corps supplicié avant, pendant et donc après la crucifixion.
Oui.
À un moment donné, vous lui faites dire à propos de Judas ce que l'esprit ne comprend pas, le corps le saisit. C'est en dépit des monothéismes qui ont tenté de balayer le corps, cette objection encombrant, c'est un hymne incroyable à l'ici et maintenant à la présence corporelle,
mais bien
à la jouissance, au vertige de vivre et d'être incarné.
Le corps, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Nietzsche le dit, le corps est une grande raison. Très souvent, je pense même que le corps est la seule raison. Tout ce qui passe par l'esprit est biaisé et en fin de compte inintéressant. Quand quelque chose vient vraiment du corps, là, tout à coup, c'est plein d'énergie et c'est vraiment passionnant.
Claude.
Quand on écrit, on est toute puissante. Est-ce que vous avez eu les tentations d'être plus forte que Dieu et de libérer votre Christ, qu'il aille vivre sa vie avec Madeleine, qu'il l'aime et qu'il vive une vie normale? Ça ne vous a pas tenté en écrivant?
Ça ne m'a pas tenté parce que j'ai vraiment pris Jésus comme le héros d'une tragédie grecque. C'est-à-dire, tout le monde le sait, il est le premier à le savoir, il est condamné d'avance et dans le cas de la tragédie grecque, pourquoi changer la fin? Ça n'existe même pas. En revanche, je voulais changer les choses profondément de l'intérieur. Ce qui ne m'allait pas, c'était l'adhésion de Jésus à tout ça. Ça ne me paraissait pas pensable. Un homme aussi profondément attachant que Jésus ne pouvait pas être d'accord avec ce plan-là. Donc j'imagine Jésus qui, sur la croix, prend conscience de l'erreur de tout cela, de l'absence totale.
De l'immense contresens, le plus grand contresens de l'histoire de l'humanité, lui faites-vous dire.
Mais bien sûr, parce qu'il nous dit que son plus grand enseignement, c'est « aime ton prochain comme toi-même », que s'il y a une seule chose à retenir de lui, c'est ça. Donc a priori, on se dit « tiens, c'est bien, aime ton prochain comme soi-même ». Donc déjà, la phrase me fait un peu tiquer, parce qu'il s'agirait déjà de s'aimer soi-même, ce qui n'est pas gagné pour tout le monde, mais surtout, qui dit cette phrase? Jésus qui accepte d'être crucifié, donc Jésus qui ne s'aime pas. Donc, aime ton prochain comme toi-même, ça devient une véritable condamnation.
Alors, chez vous, il s'aime et il est sensuel. Il aime que sa mère le touche, il aime une femme, il aime
les
pommes.
Étreintes.
Mais d'où le paradoxe. S'il s'aime, et heureusement qu'il s'aime, il a raison, c'est le but. S'il s'aime, pourquoi accepte-t-il un supplice pareil au nom, soi-disant, de la rédemption de l'humanité, lui qui est omniscient et qui se doute bien que personne ne va être sauvé et qu'au contraire, nous serons d'autant plus condamnés qu'il aura accepté ça.
Avez-vous le sentiment d'avoir extrait la quintessence du message d'amour, de miséricorde et de pardon et d'assomption de ce corps en dépit de la religion, du clergé, du catholicisme? Et en d'autres termes, allez-vous être excommunié, Amélie Nothomb?
Alors je ne sais pas du tout si je vais être excommunié parce que l'attitude des chrétiens est très très paradoxale jusqu'ici. Jusqu'ici, l'Église s'est plutôt manifestée pour.
Vous?
Oui, à ma grande surprise d'ailleurs, tous les prêtres ne se sont pas manifestés, mais ceux qui se sont manifestés se sont montrés favorables. En revanche, énormément de catholiques isolés et
des lecteurs
m'ont envoyé de véritables condamnations, mais pas les jeunes. Curieusement, il y a eu beaucoup de jeunes catholiques pour dire que...
C'est générationnel, tout est normal.
Je ne sais pas si c'est uniquement générationnel, mais... Je voudrais que les choses soient claires. À aucun moment, je n'ai écrit ce livre contre les catholiques, non, ni contre qui que ce soit. C'est vraiment...
C'est une réconciliation avec l'incarnation.
Mais exactement.
Voilà, tout simplement.
J'avais profondément besoin de ça.
Amélie Nothomb, vous avez dit le mot lecteur, club de lecteurs.
Oui,
Nadia.
C'est plus du tout ringard, les clubs de lecture, c'est très à la mode. C'est devenu un phénomène culturel de masse aux États-Unis et en France. Des clubs de lecture, ce sont donc des groupes, des personnes qui vont discuter, qui vont débattre autour d'un livre, soit dans la vraie vie, soit sur Internet. Ça se passe donc aux États-Unis, où plus de la moitié des Américaines de plus de 25 ans, c'est énorme, participent à des clubs de lecture. Elles sont encouragées par des personnalités comme la présentatrice star Oprah Winfrey, l'actrice Emma Watson qui ont lancé un club de lecture et notamment des clubs de lecture féministes. C'est ce qui se passe également en France, il y a cette démarche-là. Le club de lecture du Figaro, par exemple, a récemment partagé une liste de livres écrits uniquement par des femmes. Je précise que les hommes sont les bienvenus dans ces groupes, à quelques exceptions près, mais il s'agit de faire de la littérature un outil d'émancipation ou de reconnaissance des femmes, des autrices. Vous passez beaucoup de temps à dialoguer avec vos lecteurs, vous avez des relations très personnelles avec certains d'entre eux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce phénomène de se rassembler comme ça autour d'un objet littéraire?
Mais pourquoi pas, ça me paraît extrêmement bien. Je suis très souvent contactée par des clubs de lecture comme ça. Alors, en même temps, j'y suis terriblement favorable, mais quand ils me demandent d'assister, je préfère pas, parce qu'il s'agit de lire mes livres. Donc là, ça me fait très plaisir qu'on lise mes livres dans ces circonstances, mais j'ai l'impression que si j'étais là, ce serait d'une impudeur colossale. Je n'ai pas assisté à mon propre déshabillage.
Amélie Nothomb, vous avez maintes fois parlé de votre anorexie passée. L'anorexie, c'est vouloir faire disparaître son corps. Il est trop encombrant, il est trop visible. Vous vous êtes réconciliée avec cette figure, ce corps?
J'ai
l'impression que ce livre est un livre de réconciliation avec le corps.
Oui, c'est vraiment un traité de paix. Ça a été une très très longue histoire. Et réintégrer mon corps a été très difficile. Je pense que l'écriture a été un vrai cheminement pour justement... recoudre mon corps avec mon âme. Maintenant, j'essaie, non pas d'idolâtrer mon corps, c'est vraiment pas le but.
C'est votre droit.
Mais enfin, de l'habiter avec le plus de plaisir possible. Et pour ça, un de mes grands moyens, c'est précisément la soif. C'est le titre de ce livre. Je suis une grande championne de la soif.
Vous avez même été potomane, risque de l'œdème cérébral. Hein.
Oui, mais ça s'est toujours très très bien passé. J'ai été une potomane heureuse et ça m'arrive encore régulièrement.
Une dernière chose, page 130, c'est vous qui parlez, ce n'est pas Jésus. Vous dites, vous écrivez, je n'en reviens pas que tant de gens veuillent mourir dans leur sommeil.
Mais oui, ça me dépasse.
Je suis sûre que ça, c'est vous.
C'est tout à fait moi, parce que...
Vous voulez vivre votre mort dans la lucidité?
Je suis sûre que mourir doit être quelque chose de passionnant et je veux être là en toute connaissance de cause à ce moment-là.
En pleine conscience?
En pleine conscience.
Très bien. Vous n'êtes plus insomniaque?
Je suis dramatiquement insomniaque.
Comme sur un... Merci Amélie Nothomb.
Merci.
Soif, première liste du Goncourt, un succès colossal.